19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver, démarrer la semaine avec vous. Eh bien, vous le savez que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir commenter. Justement, ça tombe bien puisque les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 20h pour décrypter, analyser, mais également aussi commenter l'actualité. Alors, au menu de ce soir, chers amis auditeurs, nous allons commencer par tout simplement ouvrir l'antenne au 01 53 48 3000, parce que d'abord je voudrais laisser réagir, vous avez été très nombreux à me solliciter pour me dire que vous vouliez réagir sur cette guerre entre le Hamas, Israël avec ces nouvelles frappes notamment, et puis ces passages de Rafah, donc des centaines de Palestiniens qui espéraient fuir vers l'Égypte, eh bien n'ont pas pu. L'action humanitaire est bloquée, bref, parlons-en au 01 53 48 3000. Nous parlons aussi, alors c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit précisément que, eh bien, on parle de 102 personnes qui ont été interpellées pour des actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Ça voudrait qu'on en parle, qu'on prenne le temps d'en parler. 01 53 48 3000, je vous attendrai tout à l'heure. Avec les débattants influenceurs, chers amis, nous parlerons de l'enseignant tué à Arras, Gabriel Attal, qui lui, le ministre de l'Éducation nationale, ne tolérera aucune contestation pendant des hommages à l'école. De la même manière, beaucoup de commentaires, la sécurité à l'école, elle est en question. On en parlera. On parlera aussi également de Fabien Roussel. Il sort du silence. Bon bref, il n'a jamais été silencieux. Nous appelons à tourner la page de la NUPES. Comment le comprennent nos débatteurs et influenceurs? Est-ce que à terme, cela veut dire tout simplement que la NUPES n'existera plus? Oh, ça mérite une clochette. Qu'est-ce que c'est triste. Ah ouais. Comment c'est? Non mais c'est vrai. Comment ça va s'amuser avec la NUPES, nous? Bah, attention, on est un peu... C'est une boutade, hein. On parlera aussi de la guerre entre le Hamas et Israël. Justement, on ira direction donc pour aller s'intéresser de très près à ce qui se passe. Et 19h30, nous parlerons du fameux 17 octobre. Vous savez, c'est la commémoration. Et nous, chaque année, à Beurre FM, on en parle. Et on sera avec le maire, monsieur Carnouvez, qui sera avec nous tout à l'heure, pour revenir sur cette actualité. Et notamment, je vous donnerai tout le programme détaillé concernant la journée de demain, puisque beaucoup d'événements sont prévus durant cette fameuse commémoration du 17 octobre, souvenez-vous, 1961. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Allez, c'est parti pour le jingle des auditeurs. Nous allons ouvrir l'antenne tout de suite pour parler de la guerre en Israël avec le Hamas, la guerre entre le Hamas déclaré et Israël désormais. C'est parti, 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre, mais également aussi sur les actes antisémites. Gérald Darmanin parle, lui, vous savez, tout simplement de 102 personnes qui ont été interpellées pour des actes antisémites en France depuis le 7 octobre dernier. Je veux qu'on en parle tous ensemble, 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
C'est parti, je vous présente le journaliste, celui qui a cartonné, je dois le dire, avec son billet d'humeur. On ne parle que de lui, justement. Il s'appelle Jérôme Bonnet. Bonjour, ça vous fait sourire, pour quelle raison?
Ah, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites, encore une fois.
C'est bien.
Les lauriers, ils reviennent avant tout à Gideon Levy. Puis sinon, par ailleurs, moi je suis très content d'être ici. On n'a pas l'impression d'être le lundi quand on est à Beurre FM.
C'est vrai, on n'a pas l'impression. À un moment, je pensais que c'était. Bon, enfin, ouais, c'est vrai. J'ai oublié qu'on était en début de semaine. Face à lui, c'est le syndicaliste, représentant de la CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou.
Bonjour à tous.
Notre grande gueule.
Bah, toujours. Bah, écoutez, ouais. On fait aller. Je compte toujours d'être content d'être ici.
Mais bah, je vois, ça se
un
voit,
terrain
ça
de liberté d'expression. Ça, c'est toujours du bien dans ce monde.
Tous ceux qui viennent, ça se voit, on sent qu'ils sont.
Toujours.
On le sent. Messieurs, tout de suite, allez. Je vais accueillir, tiens, Amadou de Grenoble. Amadou de Grenoble qui peut-être va nous faire part de la situation en Israël, en Palestine notamment. Amadou. Bonsoir, Amadou.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Enfin, bonsoir.
Bonsoir, mais c'est affreux, c'est catastrophique.
Vous m'aviez manqué, je dois le dire. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas entendu, Amadou.
Le mal est déjà fait. Il faut chercher la paix, que de tuer l'humanité, quoi. Parce que c'est pas les politiques, c'est pas Hamas qui tue le territoire. C'est le peuple palestinien, le peuple israélien. En France, je ne prends pas parti. Qui souffre, quoi. Qui vont mourir. Les politiques, ils sont forts. Hein.
Oui.
Le problème, c'est qu'il y a des affaires, il y a des gens qui sont comme le pardon, et chercher la paix, que de faire du mal, parce que pourquoi se donner la victoire au diable, quoi. Bon, parce que notre ennemi commun, c'est le diable. Donc, moi, je n'accepte pas de faire du mal au diable.
Bon, je crois que visiblement, on a un souci d'antenne avec le téléphone, je crois. Il faut. On va essayer de résoudre ça, parce que je crois que. Pardonnez-moi, Amadou, mais je crois que vous passez. Vous n'êtes pas en direct du tout. Nous, on vous entend, mais pas le direct. Écoutez, on va essayer de résoudre tout de suite cette histoire technique. Jérôme Bonnet, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur avec cette attaque depuis le 7 octobre du Hamas en direction d'Israël. Depuis le 7 octobre, Gérald Darmanin, lui, il parle de 102 personnes qui ont été interpellées pour des actes antisémites. Que doit-on comprendre, Jérôme Bonnet ?
Bon, alors avant tout, il convient de préciser, bien évidemment, que l'antisémitisme est un cancer, comme l'est l'islamophobie d'ailleurs, ou toutes les sortes d'opinions comme ça qui reposent sur des idées complètement absurdes. Une fois qu'on a dit ça, on est bien obligé de constater que, disons, dans l'hystérie actuelle qui suit les horreurs qui sont produites en Israël, il y a une forme d'hystérie et que, pour aller dans le sens de l'opinion, disons, il faut faire étalage de sa lutte contre l'antisémitisme. Moi, je m'en plaindrai pas parce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, mais j'aimerais bien savoir dans le détail quels sont ces fameux actes. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui est considéré comme antisémite. Parce qu'il y a des propos qui sont antisémites et qui sont condamnables. Mais par exemple, si quelqu'un a écrit « Free Palestine, libérons la Palestine », est-ce que c'est considérable comme de l'antisémitisme ? Pour moi, ça n'en est évidemment pas. Je voudrais juste avoir cette certitude-là. Sinon, bien sûr, je le soutiens dans sa démarche de lutter contre l'antisémitisme. Il ferait bien aussi de lutter contre l'islamophobie.
Comme ça, c'est clair, Jean Bonnet. Jimmy Delidou, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque, oui. On le voit bien, tous les 2-3 jours, le ministre de l'Intérieur parle d'actes antisémites.
Oui, alors, plusieurs choses. L'antisémitisme, encore une fois, est un poison. Évidemment, c'est un poison subjectif, un poison mental, un poison social, un poison... je crois qu'on subit, c'est la conséquence de plusieurs choses. D'abord, sur le fait qu'on, sur le plan politique, certains satellites politiques, certains petits partis politiques, groupes politiques ont consciemment semé la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme dans les subjectivités, en créant, en attisant comme ça la haine et en faisant, consciemment, hein, je donnerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront consciemment la confusion entre les deux. Encore une fois, l'antisionisme, disons les choses franchement, lorsqu'on est antisioniste, on est contre une ligne politique. On est contre une ligne politique
justement,
qui émane d'un gouvernement.
Justement, il y a beaucoup.
Voilà. Ouais. Quand on est antisioniste, on est contre une personne qui pratique, qui est de confession juive et qui serait vue comme un problème, un poison. Or, c'est là tout le problème parce que, bon, vous savez, moi, ça fait 20 ans que je milite. Et donc, je me dis que la personne qui est juive en Israël, comme la personne qui est musulmane en Palestine, elles veulent tout simplement vivre en paix, en fait. Vous avez beaucoup qui veulent vivre en paix, sans guerre. Elles veulent aller travailler, rentrer vivre tranquillement, construire une vie pour leurs enfants. Elles veulent la paix. Et elles subissent par la guerre, les conséquences d'une politique, de position politique. Donc évidemment, l'antisionisme, c'est, pour moi en tout cas, c'est nécessaire. Mais là aussi, il y a une confusion. C'est-à-dire il faut être contre la ligne politique du gouvernement israélien, mais soutenir le peuple israélien, de même qu'il faut soutenir le peuple palestinien, le peuple de Palestine, et aussi être critique envers leur gouvernement. Mais vous savez, c'est, encore une fois, c'est pas à nous de décider. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples. C'est si le peuple palestinien n'est pas content de son gouvernement, et si le peuple israélien n'est pas content de son gouvernement, l'autodétermination qui est le principe fondamental des peuples, parce que l'autodétermination dit que c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont les peuples qui décident de leur propre avenir politique, de leur destin, et donc à partir de là, c'est aux Palestiniens et aux Israéliens de décider. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on porte un jugement, alors qu'on est ici en France, on porte un jugement sur ce qui se passe à l'extérieur. On peut porter, il faut débattre, il faut discuter, on développe des idées, mais on n'a pas à juger un peuple.
Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous vous référez à ça ?
Parce que, oui, le problème qui se pose, c'est qu'on a...
Vous pensez à quoi ? Parce que, justement, j'ai envie qu'on creuse là-dessus.
Non, mais vous savez, moi, ce qui me gêne actuellement, c'est qu'on a un gouvernement qui vous dit, si vous prenez position pour la Palestine, vous êtes forcément collaborateur du terrorisme. Et si vous prenez position pour Israël, vous êtes forcément dans le bon coin, dans le bon camp.
Oui.
Et ça, c'est une position qui est une exigence de position qui est dangereuse, parce qu'en fait, lorsque les gens ne comprennent pas, lorsqu'on leur dit que vous pouvez pas manifester en soutien à la Palestine, qu'on leur dit vous pouvez pas manifester par rapport à ce qui s'est passé le 17 octobre 61, je vous rappellerai que beaucoup de musulmans, le 17 octobre 61, même avant le 17 octobre et après, ont été tués. C'était un carnage. Ouais. Hein, c'était à l'époque, c'était le préfet de police, c'était Maurice Papon. Mmh. On connaît son pédigré. Ben, lorsqu'on leur interdit de manifester, et que ça se fait souvent d'une manière pacifique, et quand dans le même temps on dit aux pro-israéliens, bah vous pouvez manifester, bah ça c'est une position politique qui est dangereuse.
On va essayer de voir si on peut accueillir nos auditeurs, peut-être que ça marche, hein, 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler, on va essayer de voir si effectivement l'aspect technique a été résolu. Je vais essayer tout à l'heure, 01 53 48 3000. Jérôme Bonnet.
Oui, je voulais juste faire une précision, mais elle est importante à mon avis, d'ordre sémantique. C'est assez important. Pourtant, à mon avis, ce mot sionisme, moi j'ai tendance à m'en méfier parce qu'il y a beaucoup de confusion autour.
C'est-à-dire
lorsque Jimmy en parlait à l'instant, il disait, et évidemment de bonne foi, hein, il n'est pas question de remettre ça en question, qu'il oppose, disons, antisémitisme, c'est-à-dire haine du juif, à sionisme qui serait donc en fait une opposition à la politique menée par le gouvernement d'Israël. Le problème, c'est que si vous regardez dans le dictionnaire, c'est pas ça que ça dit. Le sionisme, c'est le mouvement dont l'objet fait la constitution en Palestine d'un État juif. Autrement dit, lorsqu'on se dit antisioniste, on est opposé à l'existence d'Israël. Et là, évidemment, c'est un peu problématique. Moi, ce que je fais, mais j'ai pas de conseils à vous donner, hein, évidemment, mais personnellement, je me dis anticolonialiste ou opposé à la, parce qu'en fait le seul problème entre Israël et la Palestine, c'est celui-là, c'est la colonisation, c'est que Israël s'approprie des terres qui ne lui appartiennent pas, c'est ça le seul problème en réalité. Donc si on se dit anticolonisation, au moins les choses sont plus claires. Mais voilà, après c'est juste un point de vue personnel.
On va demander à nos auditeurs s'ils sont d'accord avec Jérôme Bonnet et ses déclarations anticolonialistes. Ça ne marche toujours pas. Ah oui, bon, effectivement, alors on va essayer de résoudre cette histoire-là. On a un gros problème, c'est vrai que bon, voilà, c'est le principe du direct.
Juste un truc. La petite ambiguïté avec le motionnisme, c'est qu'effectivement, c'est que c'est tout le problème de la position politique du gouvernement israélien, c'est que le gouvernement israélien met en application une politique colonisatrice. Oui. Ça, on est d'accord.
Oui.
Le problème, c'est que c'est sous paravent social. La religion juive est un peu un paravent social. Et malheureusement, ça fonctionne. C'est bien une politique qui met en application, indépendamment de la croyance religieuse. Et la différence, c'est que, la barrière entre les deux, elle est tellement fine qu'en fait, que la conscience politique, il faut une certaine conscience politique pour établir cette barrière. Et lorsqu'il y a une exigence qu'on devrait avoir par rapport à cette conscience politique, corrélativement à une confusion politique qui émane, qui a été construite par des petits satellites d'extrême droite.
Mais c'est pour ça que je m'en méfie, parce que c'est dangereux. Eh bien, c'est
après, si c'est d'ordre sémantique, oui, effectivement, on peut parler d'armée d'un gouvernement colonisateur.
Mais
non,
c'est ça.
D'accord.
Et le problème, il est là.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Vous avez fait référence, Jimmy Dalidou, justement, au 17 octobre 61. Je veux qu'on en touche deux mots, justement. Quelques mots, quand même, parce qu'il faut qu'on vienne là-dessus. Ça se passe demain. Beaucoup de commémorations sont prévues un peu partout en France. Et je voudrais qu'on revienne sur cet événement, ce massacre colonial, justement, pour le coup.
Cette honte pour la France.
Voilà, cette répression meurtrière. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, c'est en direct, il est 19h21 précisément avec Jimmy Dalidou, représentant CGT mais également auteur, journaliste Jérôme Bonnet, mais vous également au 01 53 48 3000, 17 octobre 1961, avant de revenir sur la guerre en Israël mais également le Hamas, cette guerre entre les deux, effectivement, on reviendra longuement, on parlera d'Arras, l'enseignant tué. Et on reviendra sur les propos de Fabien Roussel. 17 octobre 1961, cette sanglante répression, rappelez-vous, des Algériens, ça se passait donc effectivement à une période sombre, ça se passait à Paris, messieurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure le préfet Papon, il y a 60 ans, un massacre en plein Paris, Jérôme Bonnet. Et nous, ici, effectivement, dans Les Informés, on le commémore et on en parle surtout, on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout que là, il y a un peu partout en France, demain, une série de commémorations et d'événements.
Ben, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien d'en parler. C'est une tache indélébile sur l'histoire de France. La France n'a pas toujours brillé, et là, elle a vraiment pas brillé du tout. Et c'est pas en planquant la poussière sous le tapis qu'on résout le problème. Il faut regarder les choses en face. Il faut savoir là où la France n'a pas tenu son rôle. Et là, vraiment, on parle effectivement d'assassinats dans les rues par des policiers. C'est épouvantable. Donc, je pense qu'effectivement, la meilleure façon de tourner cette page, c'est de l'inscrire dans les livres d'histoire et d'en parler et de le commémorer comme vous faites. Vraiment, je trouve ça une excellente initiative, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de ce sinistre épisode de notre histoire.
Commémoration du 62e anniversaire des victimes du 17 octobre 61 avec la ville de Paris. Ça se passe donc demain à 9h15. Vous avez toutes les infos. Alors, seront présentes plusieurs personnalités. Hein. Emmanuel Grégoire, le premier maire adjoint, là, donc la mairie de Paris. Ariel Veil, qui est le maire de Paris Centre. Laurence Patrice, adjointe à la mairie. Tous vont commémorer demain ce 17 octobre 1961. Donc voilà, beaucoup. Il y a un appel qui est lancé à manifester pacifiquement contre le couvre-feu. Souvenez-vous, à l'époque, imposé par les Maghrébins, les Nord-Africains, hein, les Algériens essentiellement, qui habitaient en France, furent tués par la police française. Jimmy Dalidou.
Oui, alors très important de, oui, effectivement, de commémorer le 17 octobre 61. Alors peut-être se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On est le 1er novembre 1954 est créé le FLN, le grand FLN, avec notamment entre autres, il n'était pas le seul, par le grand Ahmed Ben Bella. Et on est en plein de donc novembre 54, le FLN-ALN prend forme, les Algériens décident de se libérer des griffes de leurs exploiteurs, parce que l'impérialisme français exploitait la main-d'œuvre algérienne depuis 1870. Donc ils se réveillent. 54, création du FLN. 56, 57, ça s'accélère. On sait que les Algériens ne parlent pas. Le DZ, il parle pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la torture. Le SDSE, les services de renseignement français, la main rouge, tout ça, ils mettent le paquet parce que l'Algérien ne parle pas. Et ils veulent absolument que l'Algérien parle, parce que l'impérialisme français et ses soldats sur place veulent absolument mettre la main sur les militants les plus avancés du FLN.
Crime d'État qui n'a jamais été reconnu.
Bien sûr, bien sûr.
Par l'État français.
Hein. On n'a toujours pas le bilan, d'ailleurs, le bilan exact. Bon. Parce qu'officiellement,
entre 20 000 et 30 000 Algériens qui ont manifesté. Mais après, on n'a pas le bilan exact.
Donc, du coup, on arrive en 61. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un appel à manifester, ça s'est fait d'une manière pacifique. Parce qu'en 61, le FLN.
On parle de 54 morts noyés. Hein.
Ouais, alors le FLN et les Algériens en France voulaient qu'il y ait négociation avec le GPRA. Le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et malheureusement, force est de constater que les Algériens en France avaient des conditions d'existence particulièrement abominables. Ils vivaient dans des bidonvilles, notamment en Nanterre et ailleurs. Exact. Adil l'a bien dit, il y avait un couvre-feu qui était appliqué uniquement pour les Maghrébins.
Donc un régime d'apartheid.
Un régime d'apartheid. Maurice Papon organisait le tout. Hein. Maurice Papon, on va pas rappeler son pédigré. Donc,
l'apartheid.
Et le 17 octobre 61, il manifeste d'une manière pacifique. Malheureusement, une partie des Algériens vont se perdre. Et là, la police va passer à l'attaque. Et là, ça va être un véritable massacre, un véritable carnage.
Un véritable carnage, effectivement.
Et là, le gouvernement français ne s'est jamais excusé.
Alors, justement, je voulais qu'on en parle. En 2012, le Parlement et François Hollande reconnaissent une répression sanglante à l'égard des Algériens français. En 2018, c'est au tour d'Emmanuel Macron d'admettre une répression violente, mais aucun d'ailleurs des présidents ne parle d'un crime d'État. Pour quelle raison? Ils ont du mal, effectivement. Il y a un souci.
Je pense que il y a encore le travail de sape d'une partie de la classe politique française qui n'a de cesse de dénoncer ce qu'ils appellent la culture de l'autoflagellation. Alors on n'arrête pas de s'excuser. Ben oui, mais on est désolé. La France a été un très grand pays, très puissant, et comme tous les pays très puissants, elle a eu du sang sur les mains. Et donc, en fait, il y a une espèce de poussée de l'extrême droite comme ça qui dit il faut pas s'excuser, il faut arrêter de s'excuser. Ils vont même vous vanter les bienfaits de la colonisation si vous les poussez un peu. Hein. Et donc, il y a toute une partie de la classe politique qui, apeurée ou de peur d'avoir l'air laxiste ou ceci ou cela, n'ose plus dire les choses telles qu'elles sont. Et ben, Emmanuel Macron, on sait comme il est, il peut dire tout et son contraire. Il a dénoncé la colonisation comme étant contre un crime contre l'humanité.
Est-ce qu'il pourrait faire un geste supplémentaire, Macron,
à mon avis, il faudrait reconnaître le crime d'État. Le mot que tu as prononcé, que vous avez prononcé, pardon, me semble tout à fait approprié. Effectivement, il faut regarder les choses en face et admettre ses torts. Il y a comme ça qu'on sort grandi des événements.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors, mais vous savez, le problème qui se pose, c'est que le 17 octobre 61, c'est un jour qui a cristallisé la haine contre le peuple maghrébin. Parce que si vous regardez l'histoire, l'impérialisme français en Algérie depuis 1870, si vous regardez ce qui s'est passé avec le SDSE, la violence qui a été mise en application par le SDSE, la main rouge, le service 7, le service action, les paras, à l'époque ils avaient un grand rôle, hein, les paras lorsqu'ils étaient en Algérie, les paras, je vais vous dire qu'Alger, les paras,
c'est François Mitterrand qui les y a envoyés.
Et François Mitterrand qui était à l'intérieur, absolument, il donnait des ordres, et je vais vous dire qu'il y allait pas de main morte avec de la cuillère, hein, monsieur Mitterrand à l'époque. Et qu'est-ce qui... Force est de constater que les DZ ne balançaient pas. Ils sont toujours restés fiers. Et ça faisait enrager l'impérialisme français. Parce que lorsque vous mettez en application, vous lancez vos chiens de garde, vous lancez ceux qui sont présentés comme, on va dire, le fer de lance de la répression, les paras, les services secrets, le DSE, et que vous voulez garder votre empreinte coloniale, et que vous avez face à vous un peuple DZ qui reste fier, qui reste droit, qui en plus qui se bat bien, qui ne balance pas et qui reste solidaire. Je vous rappellerai qu'en 57, le FLN lance une grève générale. Exact. L'Algérie est bloquée.
Exact.
C'est une grève générale. Et en 57, 56, 57. Donc c'est-à-dire que l'impérialisme français sur place ne contrôle plus rien.
Et ben
donc ça, non, ils veulent pas l'admettre qu'ils ont perdu. Ils étaient faibles. L'impérialisme français a été faible. Ils se sont cassés les dents contre ceux qui voulaient se libérer. Et ce 17 octobre 61, ça a été une réponse. Ils voulaient pas baisser la tête parce qu'ils avaient déjà baissé la tête par la force. Donc ils voulaient pas l'admettre.
Eh bien,
donc ils ont été.
On suivra très attentivement si effectivement le président de la République, Emmanuel Macron, fait un geste supplémentaire en reconnaissant ce massacre.
Quand je pense qu'il faudrait s'excuser depuis le temps.
Eh ben écoutez, on verra bien.
Il l'a fait, mais alors Macron, c'est quand même, il fait quand même tout et son contraire. Je disais effectivement, il dénonce la colonisation comme un crime contre l'humanité. Il a parfaitement raison, mais derrière, il va parler de la rente mémorielle de l'Algérie et ça, c'est tout à fait indigne. Donc en fait, il essaye toujours de contenter tout le monde. C'est le fameux en même temps. À l'arrivée, on contente personne.
Messieurs, nous allons... Effectivement, j'avais une interview, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas résolu cette histoire de standard avec laquelle, évidemment, je sais que les techniciens sont évidemment d'une main évidemment forte pour essayer de réparer ce souci technique, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir réagir concernant la situation au Hamas, notamment dans la bande de Gaza, pardonnez-moi, et en Israël. Direction Arras, messieurs. Arras, avec cet enseignant tué à Arras. Alors, beaucoup évidemment, de questionnements aujourd'hui. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler. D'abord, Gabriel Attal qui dit qu'il ne tolérera plus aucune contestation pendant les hommages à l'école. Très important, quand on voit évidemment que la question de la laïcité est remise en question, faut le dire. Beaucoup se posent la question. La question de la laïcité. Voilà, grand point d'interrogation. Et puis après l'attentat d'Arras, eh bien, après cette grande réunion provoquée par le président de la République à l'Élysée sur la sécurité à l'école qui est en question. Bon, beaucoup de choses, hein.
Beaucoup de choses, en effet. Je ne sais pas à quoi je dois réagir exactement, tellement il y a effectivement de sujets qui ont été abordés là.
Allez-y.
Ce que l'on peut dire,
alors, le choix.
Je trouve ça. La laïcité, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un projet, c'est quasiment que français en réalité, on ne trouve pas ça ailleurs. Hein. C'est l'idée de l'intégration en France, c'est-à-dire qu'on va être tous unis autour d'une culture. Et donc qu'on va mettre de côté notamment la religion pour se rassembler en tant que français autour de valeurs, de cultures communes. C'est une belle idée en soi.
Oui.
Quand ça se transforme au bout d'un moment en « je ne tolérerai pas la moindre contestation », c'est-à-dire qu'en fait, on vous interdit... de vouloir cultiver une différence. Vous dites, mais non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Eh ben, vous n'avez pas le droit. Je trouve que on est assez loin de l'idée de base qui est l'universalité républicaine. Et là, on s'en éloigne. Ça me gêne. Sinon, bien évidemment, il faut quand même, on peut quand même pas rester les bras croisés, alors que en plus des enseignants, je veux dire, ce sont des gens qui transmettent le savoir. C'est pas pour rien que les terroristes s'attaquent à eux. Donc on peut pas non plus rester les bras croisés, mais attention à l'instrumentalisation, attention à ne pas en faire un outil pour discréditer quiconque n'est pas d'accord avec moi.
C'est ça. Effectivement, il met le pied là où le bât blesse, Jimmy Dalidou.
Ouais, alors deux choses sur la laïcité. Je rappellerai quand même que laïcité, évidemment, bon, c'est fondamental, c'est un des piliers. Je veux dire, j'ai déjà dit en direct, c'est très subjectif. Je pense que si on serait pas dans un pays laïque, si on n'avait pas laïcité, ça fait longtemps qu'on serait parti. Je pense que la guerre civile serait pas loin. C'est ce qui est un des garde-barrières, un garde-fou, c'est la laïcité. Ah, mais laïcité, attention, c'est pas seulement le fait de, évidemment, c'est le fait que les croyances sont personnel et que les personnes, quelles que soient leurs croyances, ne peuvent pas subir de violences physiques ou psychologiques. C'est voilà, c'est personnel. Mais c'est aussi le fait d'accepter qu'on rejette une religion, par exemple. C'est-à-dire, c'est accepter que certaines personnes ne croient pas en une religion, soit athée ou soit scientifique, soit dialecticien matérialiste ou autre. C'est ça aussi la laïcité.
C'est ça la démocratie, voilà. En fait.
Et par rapport à la sécurité, vous savez ce qui m'énerve dans ce pays, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème, on envoie des forces de l'ordre. Moi, je voudrais qu'on envoie dans les écoles, qu'on envoie plus de bouquins scolaires, qu'on envoie plus de personnes cultivées qui va au contact des jeunes. Je voudrais qu'on envoie plus de profs avec des salaires meilleurs, qu'on envoie plus de profs, des surveillants. Avant, il y avait des surveillants.
Mais là, nous mélangeons pas tout, non ? Vous avez pas la
Non, parce que ce qui va permettre de modifier. Qu'est-ce qui engendre le terrorisme ? C'est bien la subjectivité. C'est le fait qu'à un moment, on adopte des idées nauséabondes. C'est vraiment qu'on adopte. On est totalement noyé, imbibé par des idées nauséabondes et des idées criminelles.
D'accord.
Ce qui permet de résorber, pas tout le temps, mais en partie de résorber ce problème, c'est bien l'éducation. C'est bien l'assimilation d'autres idées meilleures et beaucoup plus belles. Mmh. Et ça se fait notamment, entre autres, par l'école.
Mais est-ce que l'enseignant désormais est menacé ? Mais est-ce qu'il est menacé désormais quand on parle de la laïcité ? Aujourd'hui, est-ce que l'enseignant, il va à l'école tranquillement, au lycée ou au collège ?
Parce que la laïcité a quand même été
posée cette fameuse question. Oui, je peux.
Non. Il va pas tranquillement, et c'est justement ce que je disais.
Est-ce qu'il est serein aujourd'hui, l'enseignant ?
Non, non, c'est pas par hasard qu'il cible les enseignants, parce que c'est exactement ce que disait Jimmy. Comment on combat l'obscurantisme par l'éducation. Donc l'éducation nationale, c'est fondamental. Et pour un terroriste obscurantiste, quel qu'il soit, hein, je comprends que l'enseignant soit l'ennemi. Parce qu'en réalité, c'est même son pire ennemi. Parce que, quelque part, la matraque, c'est quelque part un peu son allié. Ça va créer des déclenchés, des réactions de part et d'autre. Et c'est ça qu'il cherche, lui. Il aime la violence. Tandis que l'éducation, c'est la seule façon, c'est son seul vrai ennemi. Mmh. Et c'est pas pour rien. Et il faut vraiment protéger nos enseignants.
Bon, 0153 48 3000, dans une poignée de minutes où on se sera résolu et vous pourrez évidemment atténuer l'antenne. Question que je pose concernant donc Arras, la question qui se pose aujourd'hui, il y a la question de cette fameuse question de laïcité. Aujourd'hui, est-ce que l'enseignant est serein ?
Il est pas serein pour plusieurs raisons. Non seulement il est pas serein sur le plan social, il faut pas oublier, parce que
on s'attaque désormais à l'éducation nationale. On s'attaque aux profs, on s'attaque aux enseignants.
Oui, mais vous savez, le problème qui se pose, c'est, vous savez, ce qui génère les idées, ce sont les circonstances. Si les circonstances sont favorables, les idées sont favorables. Si les circonstances sont mauvaises, les idées seront plutôt mauvaises. Ça, c'est une réalité qu'on peut pas balayer d'un revers de la main.
La réalité économique, en réalité.
Bien sûr.
En fait,
c'est ce qu'on appelle les conditions, chez les marxistes révolutionnaires, c'est ce qu'on appelle les conditions d'existence matérielle. Si vos conditions d'existence matérielle sont exécrables, vous penchez plutôt vers le mauvais côté, parce que vous êtes imbibé par la colère, etc., etc. Si vos conditions matérielles, de vie matérielle sont positives, vous aurez plutôt tendance à avoir des idées positives. Donc lorsqu'on vit dans un ce qu'on appelle une structure sociale qui est basée sur ce qu'on appelle le capitalisme de monopole, c'est-à-dire que pendant que des uns s'enrichissent toujours plus, alors qu'à l'opposé, on s'appauvrit toujours plus, et ça va s'aggraver malheureusement parce que les rouages du système capitaliste, ils fonctionnent comme ça, eh bien à un moment, vous avez des gens, vous savez, moi j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à militer il y a 20 ans, de faire de bonnes rencontres. J'ai rencontré à l'époque, c'était l'LCR, j'ai été à mes premières réunions, ils m'ont formé, ils m'ont encadré, ils m'ont donné une formation politique, et au lieu de partir en vrille, j'ai préféré ouvrir des bouquins. Mais là, est-ce que vous n'avez pas cette chance-là ? Comment vous faites ?
Alors justement,
vous partez en vrille.
Quand on parle de la laïcité et vous dites on part en vrille, désormais quand on va à l'école, est-ce que la sécurité à l'école, est-ce qu'elle est vraiment en question ? Jérôme Bonnet.
Ben, moi, je crains qu'elle le soit.
Est-ce qu'il faut pas...
et ça va être très compliqué de lutter contre ça, parce que...
Comment on vérifie?
On va pas faire dans la surenchère, comme aux États-Unis, à mettre des portiques, enfin, à un moment...
Des portiques, et puis surtout la police à chaque établissement.
En fait, il faut...
Chaque policier.
Il faut être extrêmement vigilant, et il faut réagir à chaque signal d'alerte. Le dernier terroriste d'origine tchétchène, là,
il avait
été dénoncé.
Il avait 20 ans, c'était un jeune.
Oui, mais il avait été dénoncé en conseil de classe. Il y avait déjà des gens qui avaient parlé de lui en disant que ce type était quand même potentiellement dangereux. Il avait un casier vierge, attention. Hein. Mais malgré tout, on aurait dû quand même le surveiller d'un peu plus près. Le problème, c'est aussi cette culture de peur à l'éducation nationale, de pas de vague, qui fait que on préfère balayer la poussière sous le tapis, mais la poussière, elle finit par ressortir.
Je vous donne la parole juste après, on prend beaucoup de retard là. On marque une courte pause et on se retourne pour la dernière ligne droite. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonne nouvelle, chers amis auditeurs, c'est parti pour le jingle auditeur, c'est réparé, c'est enfin prêt pour vous, 01 53 48 3000 jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Autant dire que forte mobilisation technique autour de ce standard. Hein, il nous en fait voir de toutes les couleurs. Hein. 19h42, allez, vous pouvez commencer à nous appeler 01 53 48 3000. Je vous laisse le choix, évidemment, de commenter l'actualité, à la fois entre la guerre en Israël, la bande de Gaza, le Hamas, l'enseignant tué à Arras, la question de la laïcité qui est remise en question. Et puis on parlera aussi de, tout simplement, l'enseignant, est-ce qu'il est menacé aujourd'hui? Abdel Malik de Nanterre. Bonjour Abdel Malik.
Oui, Abdel Malik de Nanterre, Amchaoui.
Oui, bienvenue, on vous écoute.
Merci, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Comme les agressions, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de Palestine, on est contre ça, on est en colère. La deuxième chose, c'est-à-dire nos enfants qui sont fouillés dans les écoles, dans les lycées de A à Z. Donc chaque matin, donc nos enfants qui ont 15 ans, donc et ils partent normalement à l'école, qui sont fouillés. Donc, vous voyez, donc ça, c'est psychologiquement, c'est une agression. Chaque matin, elle lève les mains, le sans sac et tout ça pour aller à l'école. Donc, ça, c'est, ça traumatise les parents, ça traumatise nos enfants.
Oui.
Et j'aimerais bien, c'est-à-dire, les responsables, le gouvernement, ils font quelque chose. Ça, c'est la première des choses.
Nos débatteurs réagissent. Vous savez, vous dites quelque chose là. Ils disent que ça, ils trouvent gênant le fait qu'on fouille leurs enfants.
Tous les jours.
Attendez, on va répondre à ça parce que juridiquement, ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je sais, c'est une question un peu juridique, mais c'est une remarque importante aujourd'hui.
Important,
beaucoup craignent et ça pose problème, hein. Effectivement, à la fois problème moral, mais juridique, le fait que leurs enfants soient fouillés systématiquement. Jérôme Bonnet.
Mais évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais on va pas faire comme aux États-Unis, installer des portiques partout. D'abord parce
on
que
on y est presque là.
On y est presque. Et pourtant, il faudrait pas. C'est pour ça que je parlais. Moi, je pense qu'il faut être attentif aux signaux plus tôt et réagir plus vite plutôt que d'en arriver en bout de chaîne à contrôler tout le temps. Mais vous avez raison, mon cher Lille, fouiller les enfants, ça se fait pas comme ça dans la loi française. Et effectivement, ça pose aussi des problèmes. Et vous allez voir qu'ils vont vouloir légiférer là-dessus.
Jimmy Dalido.
Ouais, mais ce qui me gêne, il a tout à fait raison, Abdel Malik, je crois, oui. Parce que c'est pas normal qu'on fouille nos enfants, mais que dans le même temps, on laisse des gars s'entretuer dans les rues de Marseille et que on va pas les fouiller, si vous voulez. Alors ils sont plus, ils vont jouer les cow-boys en fouillant nos enfants à la sortie des écoles, mais ils sont pas capables d'aller fouiller ou d'arrêter des gars qui font du trafic de drogue et qui tirent, qui se tirent dessus et qui de plus font des morts, des dommages collatéraux.
On va écouter Abdel Malik. Abdel Malik, effectivement, oui.
Et deuxième chose, donc c'est-à-dire, j'arrête pas de parler, ça fait 2 ans également, donc. Je vous dis déjà, le président Hollande, quand il est rentré pour le 17 octobre 61 sur le pont de Clichy, oui. Il nous a promis qu'il va reconnaître le massacre de 17 octobre 61, finalement, non. Deuxièmement, le président de la République, Macron, quand il est parti sur le pont de Beson, tout le monde, ils ont vu la scène qu'il a déposée, gerbe de fleurs. Vous êtes d'accord?
Oui.
D'accord. Eh bien, le protocole a repris la gerbe de fleurs avec lui. C'est honteux de sa part.
Dites-moi pourquoi.
Pourquoi ils l'ont pris? Il a dit, on va la jeter. Moi, mon grand-père, ils l'ont jeté à la Seine. 3 jours après, pour qu'on l'a trouvé. Ça, c'est la première des choses. Mais le président de la République, j'ai essayé de parler avec tout le monde. J'ai parlé avec les élus, les conseillers municipaux, les députés. Et il n'y a personne qui veut écouter. Donc, c'est-à-dire, c'est honteux de leur part de prendre cette gerbe de fleurs. Ils l'ont repris avec eux. C'est l'image de quoi ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, ça ? C'est honteux de leur part.
Jérôme Bonnet ? Merci, Abdelmalik de Nanterre, d'avoir réagi. D'abord. Et je rédirige.
Je suis responsable également maintenant, je suis dans le collectif, oui. Et je suis responsable du parti FLN.
Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de ce 17 octobre 61, puisque nous avons réussi justement à aller chercher cette interview. Évidemment, je vous ai parlé de l'interview tout à l'heure à 19h30. On y va, c'est parti pour l'interview.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec le maire Luc Carvounas. Bonjour Luc Carvounas.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes le maire hein, de Charenton-le-Pont.
Non, le maire d'Alphonse.
Bah, pardonnez-moi, pourquoi je parle de Charenton-le-Pont? Ah oui, excusez-moi,
autant
pour
moi. Parce qu'on
n'est pas loin. Non, non, vous avez raison. Excusez-moi, Alfortville. En plus, je le sais, c'est ça le pire. Vous avez réagi plusieurs fois chez nous, dans les informés. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous, monsieur Luc Carvounas, justement. Alors, on parlait de cet événement. Vous avez entendu le cri de colère, le coup de gueule de notre auditeur de la ville de Nanterre. Jérôme Bonnet, qui est sur le plateau, qui est journaliste, mais également Jimmy Dalidou, qui est représentant de la CGT. On parlait du 17 octobre 61, de président. Président Hollande, lui, il a fait un geste, puis Emmanuel Macron, un autre geste. Alors aujourd'hui, vous-même, monsieur le maire, pourquoi la France a un peu de mal à reconnaître c'est un crime d'État, Luc Carvounas, monsieur le maire?
Alors, je pense que la France, par la voix à la fois de François Hollande lors de son quinquennat ou dans le premier quinquennat de Emmanuel Macron, que la France a reconnu ce qui s'était passé ce jour du 17 octobre 1961. Et puis, je pense que beaucoup de collectivités aujourd'hui commémorent la mémoire des personnes qui sont tombées sous les exactions des ordres du préfet Papon à l'époque. Et donc, moi, ce sera la deuxième année consécutive où nous allons commémorer demain à Alfortville cette date, dans le cadre d'un cycle mémoriel que j'ai souhaité, hein, de la manière qu'on commémore désormais ce qui s'est passé pour le groupe Manouchian à chaque mois de février. Et là, c'est un moment particulier. L'année dernière, on avait planté un arbre en mémoire des victimes.
Ouais, je m'en rappelle, effectivement, je m'en rappelle, oui.
Demain, le nouveau consul sera présent à notre côté.
Demain, qu'est-ce qui se passe justement? Vous parlez demain. Demain, il y a une commémoration dans votre ville et vous avez décidé de nouveau de commémorer le 17 octobre 1961. Pour vous, c'est important, monsieur le maire?
Oui, c'est important. C'est important pour la transmission aux autres générations et surtout, c'est important à partir du moment où on a le courage politique de reconnaître et de nommer les choses sur l'histoire qui est celle de l'histoire de notre pays. Cela permet d'avoir un meilleur apaisement pour la construction de la société à laquelle on aspire et quand on est en responsabilité comme moi. Donc le message, le signal qui est envoyé, il doit être fort. Demain, il y aura à l'île aux Cointres, hein, c'est au bord de Seine, des discours de prononcés, des remises de gerbes au pied de l'arbre que nous avons planté. Et c'est aussi un message que j'envoie aux Alfortvillais d'origine algérienne, mais pas que, à tous les Alfortvillais, parce que c'est un moment aussi de communion entre nous tous, et de, encore une fois, je dis souvent en politique, faut nommer les choses.
Faut nommer les choses. Demain, la commémoration a lieu à quelle heure précisément, Alfortville, et où précisément?
Je vous l'ai dit, elle a lieu à 16h30 à l'île aux Cointres, qui est vraiment un parc en bord de Seine, aux côtés du centre aquatique. Donc sur les quais de Seine, on ne peut pas louper ce magnifique parc de presque 2 hectares. Donc c'est là que je donne rendez-vous à toute la population, et pas que. J'avais invité mon ami de 30 ans, j'ai envie de vous dire, Akli Mouloudi, qui est le nouveau sénateur du Val-de-Marne. Malheureusement, Akli est à Marseille, il ne pourra pas être des nôtres, mais j'ai bon espoir qu'il le soit l'année prochaine. Voilà, et puis c'est un moment de partage, c'est un moment où aussi on rend hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont eu le courage de sortir et qui sont tombés... sur une police malheureusement
Alors,
qui a été trop virulente, mais sur ordre du préfet de l'époque.
Du préfet de l'époque, justement, la fabrique d'un long silence hein, avec ce fameux grand massacre du 17 octobre 61. Quel est votre message, vous, monsieur le maire, que vous voulez livrer ce soir à celles et ceux qui nous écoutent concernant ce crime d'État, comme le qualifient certains, et puis d'autres n'osent pas, évidemment, on attend beaucoup d'Emmanuel Macron, beaucoup attendent d'Emmanuel Macron, et puis ce massacre du 17 octobre 61, monsieur le maire?
Modestement, dans ce que nous allons faire pour la deuxième année consécutive demain, c'est justement la reconnaissance de ce massacre et l'hommage rendu à ses victimes. Et puis le message que je délivre aux habitants d'Alfortville, dans ma qualité de maire, c'est le message du vivre ensemble. Mais pour vivre bien ensemble, il faut avoir conscience de l'histoire que l'on a par le passé, nos anciens vécus, et savoir là aussi politiquement le dire, l'affirmer, sans condamner qui que ce soit. Moi, c'est une époque où je n'étais même pas né en 61. Mais aujourd'hui, je suis un responsable politique. Et donc, ne pas le faire, ce serait à mes yeux manquer de courage politique. Et en fait, quand on fait des choses qui me semblent aussi normales, on n'aurait même pas besoin de parler de courage politique, parce que c'est quelque chose qui doit être commémoré pour moi dans tous les territoires du pays.
Merci. Merci à vous, Luc Carbonas, monsieur le maire d'Alfortville, demain. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Monsieur,
mais avec grand plaisir. Un dernier mot concernant évidemment tous les événements qui se déroulent demain, un peu partout.
Bonne fête à tous. C'est toujours bien de se remémorer ces événements, en espérant que notre gouvernement écoute ce qui va mettre ce qui sera dit demain par nos concitoyens.
Jérôme Bonnet.
Oui, juste, vous me demandiez tout à l'heure, vous vous demandiez pourquoi la France avait du mal à reconnaître ce crime d'État. Pendant que monsieur le maire parlait, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai regardé lorsqu'effectivement François Hollande s'était exprimé pour la reconnaissance, et c'est immédiatement la levée de bouclier. Marine Le Pen dit: vous n'avez pas le sentiment que toutes ces repentances ont une influence sur la manière dont un certain nombre de nouvelles générations de Français d'origine algérienne ont une hostilité maintenant à l'égard de la France? Donc ce serait la faute du fait qu'on dénonce le 17 octobre même à droite dite républicaine, Christian Jacob, il dit: s'il n'est pas question de nier les événements du 17 octobre,
merci,
il est intolérable de mettre en cause la police républicaine.
Merci à vous, merci à Jérôme Bonnet, journaliste, merci aux représentants de la CGT, mais également auteur Jimmy Delidou. À la réalisation, c'était Solal, Bilal Lenman, Time Sport, 20h, 21h, Vanessa. Quant à moi, demain avec autant de plaisir, mais surtout on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.